Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 2 Mordad, 1400 du calendrier iranien, 24 juillet 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le Parlement français approuve un projet de loi anti-musulman controversé malgré une opposition généralisée. Le gouvernement iranien redouble d'efforts pour résoudre la question de la pénurie d'eau au Khuzestan, a déclaré le président Rouhani. L'Iran exhorte la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie à parvenir à une paix durable. Et la première médaille d'or d'Iran aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien a affirmé que son gouvernement redouble d'efforts pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau dans la province du Khuzestan, au nord-ouest du pays. Hassan Rouhani a déclaré que certains problèmes avaient été résolus ces derniers jours à la lumière des mesures prises par le gouvernement. Le président Rouhani a exprimé l'espoir que les questions restantes seront bientôt abordées après une visite officielle dans la province du vice-président Essar Jahangiri et d'un groupe de ministres. Pendant ce temps, le commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution, le général de division Hossein Salami, est également en visite dans la province pour surveiller la mise en œuvre des plans d'approvisionnement en eau. La province est confrontée à une grave pénurie d'eau imputable en grande partie à la sécheresse sans précédent depuis des décennies. L'Iran a souligné la nécessité d'établir une paix durable dans le sud du Caucase, alors que des affrontements frontaliers se poursuivent entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a exhorté Bakou et Erevan à faire preuve de retenue et à régler leurs problèmes frontaliers par des moyens pacifiques. Il a également déclaré que l'Iran était prêt à aider les deux voisins à parvenir à une paix durable. Ces commentaires sont intervenus après que de nouveaux affrontements ont éclaté entre les troupes azéries et arméniennes le long de leur frontière commune vendredi. Le Salon international de l'aérospatial Russie MASC 2021 se déroule pendant 6 jours, du 20 au 25 juillet 2021, à Moscou. Les dernières réalisations de l'industrie aéronautique iranienne, en particulier dans le domaine des drones, ont été exposées à cette exposition. les compagnies aériennes iraniennes et les entreprises du savoir actives dans la fabrication d'équipements aéronautiques sont activement présentes à cet événement. L'Iran envisage de moderniser son armée de l'air. Il est donc possible qu'il conclue, dans un proche avenir, un contrat avec la Russie pour acquérir des centaines d'avions de combat de cinquième génération. Le contre-amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine iranienne, a quitté Téhéran pour Saint-Pétersbourg en vue d'assister à la journée de la marine russe. Le contre-amiral Hossein Khanzadi devrait assister à la cérémonie de la journée de la marine russe en tant qu'invité spécial. La frégate Sarand, de fabrication iranienne, est déjà arrivée au port de Saint-Pétersbourg et devrait participer à la cérémonie en tant que représentant de la marine iranienne aux côtés de la flotte russe. Le grand défilé naval de la marine russe à l'occasion de l'anniversaire de la formation de la marine russe commencera dimanche et des représentants de plusieurs pays seront également présents. Javad Foroughi a remporté la première médaille d'or d'Iran aux Jeux olympiques 2020. Javad Foroughi a obtenu 244,8 points après une performance spectaculaire en finale du pistolet à l'air 10 mètres et il est devenu le premier médaillé de l'Iran. Dans cette catégorie de tir sportif, les représentants de la Serbie et de la Chine se sont classés respectivement deuxième et troisième. Les Jeux olympiques ont officiellement ouvert hier, le 23 juillet 2021, et se termineront le 8 août. Un haut responsable irakien a réitéré que son pays n'avait plus besoin de troupes de combat américaines sur son sol. Le conseiller à la sécurité nationale irakienne, Qassem al-Araji, a déclaré que Bagdad avait communiqué sa position sur la question à Washington. Le commentaire est intervenu avant une réunion entre de hauts représentants du gouvernement irakien et des représentants de la Maison-Blanche à Washington. Le premier ministre irakien, Mustafa al-Kazemi, et le ministre des Affaires étrangères, Fouad Hossein, ont également souligné que Washington devrait retirer ses troupes d'Irak. En janvier 2020, le Parlement irakien a publié une résolution exigeant l'expulsion des forces américaines une semaine après l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani et du commandant irakien Abu Mahdi al-Mohandes. Le président américain s'est engagé à continuer de soutenir les forces afghanes alors que les talibans poursuivent leurs gains territoriaux dans le pays déchiré par la guerre. Joe Biden a fait cette promesse lors d'un appel téléphonique avec son homologue afghan, Ashraf Ghani. Selon la Maison-Blanche, les deux parties ont également convenu que l'offensive des talibans est en contradiction avec les déclarations du mouvement qui s'était engagé à soutenir un règlement négocié du conflit. Dans le cadre d'un accord de paix conclu en février 2020, les États-Unis ont accepté de retirer leurs forces restantes d'Afghanistan en échange de garanties de sécurité de la part des talibans. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001 sous prétexte de lutter contre le terrorisme. 20 ans plus tard, le pays reste instable et il est le théâtre de violences meurtrières. Au cours des dernières semaines, les talibans se sont emparés d'un vaste territoire et d'importants postes frontaliers de l'Afghanistan. Et enfin, le Venezuela a dénoncé une violation de son espace aérien jeudi 22 juillet par un avion de transport militaire des États-Unis dans le nord-ouest de son territoire à la frontière colombienne. Le gouvernement vénézuélien s'engage à répondre avec force à toute manœuvre qu'il considère comme un acte d'agression, a annoncé le ministère vénézuélien de la Défense. Le ministère vénézuélien de la Défense a déclaré que c'était un avion de transport militaire de type américain C-17 qui avait pénétré dans l'espace aérien du pays le long de la frontière avec la Colombie. Le ministère vénézuélien de la Défense a qualifié cet acte comme une provocation flagrante qui a eu lieu lors d'un exercice militaire conjoint entre les États-Unis et la Colombie. Le Venezuela n'a pas de relations diplomatiques avec les États-Unis et la Colombie, pays avec lequel il partage une frontière poreuse de plus de 2200 km. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Après un débat de plusieurs mois, le Parlement français a adopté un projet de loi anti-musulman controversé, malgré les vives critiques des législateurs qui affirment que la législation viole la liberté religieuse. L'Assemblée nationale française, chambre basse du Parlement en France, a approuvé vendredi le projet de loi contre le séparatisme après 7 mois de débat. Le gouvernement déclare que la législation était nécessaire pour renforcer le système laïque de la France. Adopté par 49 voix pour, 19 contre et 5 abstentions, le projet de loi, qui, selon le gouvernement français, vise à lutter contre l'extrémisme islamiste, ira au Conseil constitutionnel avant que le président Emmanuel Macron ne promulgue la loi. De nombreux musulmans français disent que la loi limite la liberté religieuse et les cible injustement. Les principaux partis d'opposition française, dont les socialistes et les républicains de centre droit, ainsi que le Parti communiste français, ont voté contre le projet de loi. Le Rassemblement national d'extrême droite, dirigé par Marine Le Pen, s'est abstenu lors du vote. Dans un discours enflammé, le leader d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé la loi anti-républicaine qui a qualifié d'anti-musulmane. La communauté musulmane en France affirme que la loi cible l'enseignement privé islamique en introduisant de nouveaux outils exécutifs facilitant la suspension ou la fermeture des écoles privées islamiques. Il restreint également très sévèrement l'enseignement à domicile, obligeant les parents musulmans à envoyer leurs enfants dans le système d'éducation publique laïque où les symboles religieux manifestes, comme le foulard, sont interdits. Le projet de loi a été débattu dans une atmosphère politique très chargée en France après 3 attaques brutales à la fin de l'année dernière par des extrémistes et des groupes radicaux, dont la décapitation d'un enseignant à la périphérie de la capitale, Paris. En octobre, le professeur d'histoire de France, Samuel Paty, a provoqué l'indignation en montrant à ses élèves les caricatures blasphématoires du prophète de l'islam, Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, publié précédemment par le journal satirique Charlie Hebdo. Il a été assassiné devant son école, dans la banlieue parisienne, par un adolescent tchétchène qui a été abattu par la police peu après le meurtre. Le président français Emmanuel Macron a qualifié l'incident d'attaque terroriste islamiste. Il a également affirmé que l'islam, en tant que religion, était en état de crise et a défendu les caricatures blasphématoires qui ont blessé les sentiments des musulmans en France et ailleurs dans le monde. Les commentaires du président Emmanuel Macron ont déclenché une vague de condamnation de la part des musulmans et des militants du monde entier pour condamner les déclarations du chef de l'État français.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. En 24 heures, le régime israélien a frappé la Syrie à deux reprises, à Homs et à Alep. Ces frappes interviennent une semaine après une série d'attaques contre les positions américaines en Syrie orientale. Selon les données récemment révélées, les défenses aériennes de la Syrie ont abattu 7 des 8 missiles lancés par le régime de Tel Aviv lors d'une frappe aérienne sur la province d'Alep. Le ministère syrien des Affaires étrangères a mis en garde que le régime israélien contre les retombées dangereuses de telles frappes qui visent à soutenir les terroristes et à étendre l'occupation israélienne en Syrie, notamment sur le Golan occupé. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces frappes aériennes du régime israélien contre la Syrie, des frappes qui se poursuivent et qui, selon de nombreux analystes, en effet, vise à, d'une part, soutenir et renforcer les groupes terroristes tels que le Front al-Nusra et Daesh, et d'autre part, en effet, à venger une Amérique qui n'ose plus attaquer, en effet, les groupes de la résistance, ni en Syrie, ni en Irak. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Deux méga-déculottés aériens dans le ciel de la Syrie en l'espace d'à peine 12 heures, il faut bien croire qu'il y a quelque chose de définitivement changé dans le ciel du Moyen-Orient que nie le déploiement massif de F-16 supplémentaire US près de Riyad, ni la bunkerisation des frontières jordaniennes avec la Syrie et l'Irak par quelque 30 000 marines GIs munis d'artillerie, de chars et de blindés ne peuvent changer. À peine quelques heures après que l'Amérique de Biden eut prorogé l'état d'urgence contre l'arsenal balistique du Hezbollah, lequel arsenal n'a fait que très partiellement tonner du 11 au 21 mai à travers Gaza, la résistance avec en toile de fond quelques salves de roquettes parties depuis le sud libanais contre le nord d'Israël, l'aviation sioniste qui venait de frapper Al-Safira dans le sud d'Alep, avec un bilan scandaleusement mitigé de 7 missiles interceptés sur 8, comme l'a confirmé la Russie, refait le coup et cette fois contre une autre place forte du Hezbollah en Syrie, à savoir Qusair, dans la banlieue ouest de Homs. Les images vidéo publiées ce jeudi matin par Sana prouvent pour le reste une nette précision d'interception et un extraordinaire succès de système radar-missile-intercepteur syrien qui tourne au fiasco cette deuxième tentative de couple Biden-Bennett visant à inverser la donne militaire au Moyen-Orient en général et en Syrie en particulier. À faire croire que le débarque aérien israélien du mois de mai à Gaza, suivi de coups fatals portés quelques semaines plus tard en début juillet contre la présence militaire US à Al-Omar et à Conoco en Syrie orientale, sont surmontables et que l'axe US-Israël finissant est capable de reprendre via des agissements aériens la poêle de la bête. Alors le duo Bennett-Biden n'a aucun intérêt à vouloir multiplier les raids aériens de pacotille contre le sol syrien, ou alors ils auraient à cacher d'ici peu la pluie de leur F-15, F-16 tombant du ciel. Un d'entre eux, un F-15, a failli l'être dans le ciel d'Israël quand le dôme de fer israélien a été haché par de puissants systèmes de suppression électronique syro-sud-libanais.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique depuis Damas, et Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, bonjour à vous, je suis à Damas aussi.
Ah, parfait, en fait. Parfait, très bien, très bien. Madame Idani, merci beaucoup. Madame Idani, le régime israélien, d'ailleurs ce n'est pas une surprise, continue de mener des frappes aériennes contre la Syrie, contre en effet les positions et les hauts lieux de la résistance, notamment ces derniers jours à Alep et à Homs. Et bien entendu, la DSA syrienne a répondu, riposté avec force à ces agressions israéliennes. La question qui se pose justement au moment où l'armée arabe syrienne est en passe de conquérir tous les territoires, de reprendre tous les territoires occupés par les groupes terroristes, d'abord, que pensez-vous du timing de ces frappes aériennes du régime de Tel Aviv, justement de la performance de la DSA syrienne qui a réussi à intercepter la majeure partie des missiles tirés par l'aviation israélienne.
En effet, alors, c'est juste après avoir couronné le succès syrien, en fait, par le succès syrien qui est d'avoir libéré 85% du territoire, d'une part, d'avoir vaincu et mis en échec le plan du dit printemps arabe, en fait, de dépeçage de la Syrie et de destruction du pays. Après avoir, donc, tout ceci, ça a été couronné par des élections où le président Assad a reconfirmé et a montré au monde entier que 95% de la population cherche en fait à le garder et à appuie sa politique, appuie sa résistance et appuie la politique aussi de l'armée arabe syrienne. Donc ceci est venu donc après ce grand discours d'investiture qui était de deuxième mandat, qui était absolument très positif et impressionnant, où le président Assad a affirmé la nécessité et la volonté déterminée de reconstruire le pays malgré les embargos et surtout de libérer la totalité du territoire syrien, aussi bien des terroristes, mais aussi de toutes les forces occupantes, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire la Turquie, c'est-à-dire les Américains et leurs alliés de la coalition atlantico-sioniste. Donc tout ceci est arrivé tout de suite après. Je voudrais dire, comme ça a été d'ailleurs bien précisé dans votre rapport, ça a commencé par les bombardements Biden-Israël contre les forces populaires syriennes et contre l'armée arabe syrienne et les forces populaires du Hashd al-Sha'b irakien qui s'oppose à Daesh. Ça a été aussi tout de suite après donc une attaque israélienne contre la ville d'Alep, Afira, en fait, qui a été donc aussi une attaque israélienne qui était partie des missiles. Et puis là, c'est une nouvelle attaque en même pas 24 heures après, qui vise la ville de Qusair, qui est à côté de Homs. Et ce sont des avions qui sont partis, en violant d'ailleurs l'espace aérien libanais aussi, qui se sont attaqués donc à la Syrie. Effectivement, cette réponse, c'est pour dire oui, nous sommes là. Alors, je voudrais aussi signaler que c'était aussi coordonné avec les attaques des Turcs contre les villages syriens du nord de la Syrie et des attaques terroristes de Al-Nusra ou de Jabhat al-Tahrir contre des villages aussi et des quartiers d'Alep et des villages du nord d'Alep et de l'ouest d'Alep, mais aussi des villages à l'ouest de Hama. Donc c'est une recrudescence, je dirais, des attaques. En même temps, un hélicoptère américain qui fait attaquer à la résistance populaire syrienne du côté de Manbij. Tout ceci concorde, en fait, c'est une convergence de toutes les forces qui s'attaquent à la Syrie pour s'opposer ou pour montrer qu'ils sont présents et qu'ils renforcent les terroristes et qu'ils sont là. Mais tout ceci, c'est par la rage du désespoir, parce qu'ils sont déjà vaincus et que de toute façon, c'est une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines, la libération totale du territoire syrien totalement du territoire syrien, de toutes ces forces terroristes et ceux qui les soutiennent. Je voudrais ajouter un point aussi très important, que ces attaques ont été aussi menées contre le Hashd al-Sha'b et contre l'Irak, puisque les Américains ont réactivé Daesh, mais le Hashd al-Sha'b réaffirme et tous les Irakiens réaffirment la nécessité de départ au plus tôt possible des forces américaines de l'Irak.
Merci infiniment, Madame Medani, pour ce...
par le Premier ministre qui va rendre visite aux États-Unis.
Voilà. Merci infiniment pour ces précisions, Madame Medani. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Maître Arnaud Develet, juriste international, lui aussi à Damas. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Dr. Medani.
Maître Develet, pour vous, que représentent les récentes frappes aériennes d'Israël contre la Syrie? Est-ce que là, il s'agit d'une ultime tentative de changer la donne militaire en Syrie?
Oui et non. On est en fait dans un processus d'attrition, tantôt alterné par des réunions secrètes, des discussions, tantôt par des tentatives de harcèlement et tout ça sur fond d'asphyxiation économique. Donc c'est un jeu long. Les néo-conservateurs qui sont de retour aux commandes à Washington ont toujours de toute façon mis en avant l'idée d'une guerre générationnelle. Donc c'est loin d'un conflit traditionnel. En tout cas, en ce qui concerne la Syrie, maintenant on est rentré dans cette phase asymétrique qui caractérisait l'aventurisme militaire de la Maison Blanche depuis une vingtaine d'années. Et dans ce contexte-là, effectivement, les attaques israéliennes, c'est pas nouveau, hein. On n'en avait pas eu depuis 2-3 mois. Bon, là, on en a eu deux en une semaine. Il faut prendre en compte le contexte intérieur israélien avec l'arrivée d'une nouvelle administration qui se doit de faire diversion eu égard à la crise sanitaire qui sévit là-bas en réactivant, si je puis dire, l'épouvantail iranien. Et ça rend très bien et ça permet de faire taire toute critique quant à la diversion de moyens, parce que ça coûte de l'argent de faire la guerre. Et dans ce contexte-là, cette approche est tout à fait logique du point de vue sioniste, puisqu'il s'agit de consolider, si je puis dire, la base en créant des épouvantails, des ennemis extérieurs, en exagérant les menaces. Mais cela traduit effectivement une espèce de cul-de-sac géostratégique pour les Israéliens. La campagne récente de l'épée de route a révélé que le géant avait des pieds d'argile, que le dôme de fer avait un dôme de pacotille, et qu'au-delà de cela, leur sécurité énergétique et l'absence de profondeur stratégique fait que ils s'agitent dans tous les sens. Ils essayent de, je puis dire, maintenir en vie cette idée que l'Iran est à leur porte et que leur survie est en cause. Mais cette rhétorique n'a pas vraiment de cohérence ni de, si je puis dire, de réalité fondée sur quoi que ce soit. L'idée du projet israélien, c'est de toute façon la survie de l'État par l'expansion régionale. C'est une façon de pratiquer ce qu'on appelle l'inversion accusatoire en transposant, en projectant, si je puis dire, les failles internes et les insécurités psychologiques internes sur son adversaire, afin d'éviter d'avoir à se remettre en question. Maintenant, pour ce qui est effectivement de cette réactivation, parce que vous avez évoqué bien sûr les attaques dans les environs d'Abu Kamal, le long de la frontière syro-irakienne, l'amassement de troupes américaines en Jordanie, tout ça laisse entendre une chose, c'est que le conflit au sens traditionnel est dans une phase de réfrigération, si je puis dire. Mais que l'idée, c'est de forcer à un moment donné certaines parties, certaines composantes essentielles de la résistance à craquer au détriment des autres. Hein, ni plus ni moins, c'est ça la stratégie. Alors tantôt, on va faire des offres, des approches avec la branche d'olivier. On va essayer de laisser entendre qu'on peut réouvrir quelques ambassades ici et là et que cela paverait le chemin pour des fonds de reconstruction. Tantôt, on organise des réunions sous l'égide de l'Irak, réunions secrètes entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite, par exemple. Ça a été la séquence précédente. Toujours avec cette idée de parvenir à briser ce que les agresseurs de la Syrie considèrent comme un nœud gordien. Et force est d'avouer que jusqu'à présent, toutes les composantes, toutes les directions qui composent l'acte de la résistance n'ont fait que la seule chose qui valait à faire, hein, à savoir rester cohérent vis-à-vis de leur position géostratégique, idéologique et tactique. Et en ce sens-là, plus le temps passe, plus la frustration des agresseurs, des puissances d'agression dans la région apparaît au grand jour, tout simplement.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Deveux, de rester avec nous. Madame Idani, donc aujourd'hui, les États-Unis se trouvent en mauvaise posture, en position de faiblesse, à la fois en Syrie, mais aussi en Irak. En Irak, où les opérations de Hashd al-Sharbi se poursuivent contre les positions américaines, en Syrie également, et sur le plan politique, bien entendu. Selon les dernières informations, alors les États-Unis n'ont d'autre choix que de mettre fin à leur présence militaire, du moins à la présence, en effet, de leurs forces de combat en Irak, une mission militaire qui va se réduire, en effet, selon les responsables irakiens, à un statut consultatif. Ceci étant dit, alors, les troupes américaines vont se retirer de Syrie, d'Irak, et le régime israélien, donc, avec, bien entendu, sa préoccupation, sa grande inquiétude concernant le statut du Golan occupé. À quel scénario faudrait-il s'attendre, Madame Idani, notamment sur le terrain?
De toute façon, le Golan, c'est une terre syrienne qui a été affirmée même récemment dans une réunion de l'ONU. Et même Israël a été aussi appelé à mettre fin à son occupation du Golan et au respect des règles d'occupation, puisqu'ils sont en train d'utiliser aussi le sous-sol et les richesses du Golan. Et ça, c'est tout à fait illégal au vu du droit international. La Syrie a affirmé à plusieurs reprises aussi, par toutes les voies, aussi bien au niveau des affaires étrangères, au niveau des réunions de l'ONU, au niveau des différentes réunions concernant aussi l'occupation, donc a affirmé toujours que de toute façon le Golan est syrien et sera libéré et doit être libéré rapidement. L'Israël doit se retirer du Golan. Ça, c'est un point, un premier point. Les États-Unis doivent se retirer aussi de l'Irak. Ceci a été affirmé à plusieurs reprises, et pas seulement affirmé par l'État, mais aussi par des mobilisations populaires après l'assassinat du général Qassem Soleimani et du général Abu Mahdi Mohamed. Mettre fin à la présence totale américaine dans l'est de l'Asie, en fait l'ouest de l'Asie, donc dans les pas seulement en Irak mais en fait dans tout le Moyen-Orient, est une exigence de la population et de l'axe de la résistance. Et donc ceci a commencé aussi à être discuté sérieusement avec les Américains qui à chaque fois louvoient et essaye de retarder au maximum, mais il est clair que la détermination des forces irakiennes et puis de l'État irakien par la majorité, la grande majorité de ses composants politiques, elle est effectivement alliée à la position comme quoi les Américains doivent quitter. La Syrie, il est certain que de toute façon, à chaque fois, non seulement par la voix de l'État syrien, de l'armée syrienne, etc., mais aussi par les forces populaires syriennes, les chefs des tribus, les forces populaires qui ont lancé et qui accentuent la résistance contre la présence américaine, contre la présence turque dans le nord de la Syrie et contre même la présence de Assad, s'ils ne se rallient pas opposition nationale qui est lancée et tous les jours il y a aujourd'hui des morts turcs, des morts américains, etc. et de Qassad aussi. Il y a donc une offensive relativement généralisée de l'axe de la résistance et des forces populaires syriennes qui promettent de mauvais jours à tout occupant en Syrie.
Merci infiniment, Madame Edemi.
C'est sûr que ça va dans ce sens.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Develet. Maître Develet, étant donné les récentes évolutions, en effet, en Syrie et en Irak, alors les victoires successives de l'axe de la résistance, le retrait des troupes américaines des deux pays, Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du régime israélien?
Bah, vous faites bien de le souligner, elles se réduisent de jour en jour, elles s'amenuisent, mais en même temps, c'est un élément qu'il faut prendre en compte parce que les Israéliens ne sont jamais plus, si je puis dire, irrationnels que lorsqu'ils ont le dos au mur, et qu'on peut imaginer que dans la façon dont ils procèdent, ils créent une situation de toutes pièces qui renverserait la table. C'est le mode opératoire israélien. C'est la diagonale du fou, ou ce qu'ils appellent eux-mêmes la chutzpah, et ça s'applique parfaitement en termes militaires et géostratégiques. Donc les Américains commencent à comprendre lentement mais sûrement qu'ils sont en train de dépenser leur argent et le sang de leurs soldats dans des situations militaires qui ne sont absolument pas dans leur intérêt. Ils finissent par rendre complètement caduques et non productifs, selon leur façon de voir les choses, leur occupation de certaines parties de la région. Que dans ce contexte-là, le Congrès américain a même passé une loi qui revient sur cette autorisation d'usage de la force qui datait de janvier 2002. qui permettait de justifier par fiat exécutif toute opération dans la région, mais aussi ailleurs. Ce qui fait que voilà, maintenant, l'establishment américain, la superstructure américaine elle-même commence à se dire que avec les problèmes internes, les contradictions internes qui s'accumulent là-bas, avec ce que eux considèrent aussi comme l'opposition, enfin le challenge posé par l'émergence non seulement de la Chine, mais aussi le retour affirmé de la Russie dans la région, que la diplomatie n'arrive pas à compenser pour ces échecs militaires, il est certain que les Américains ne peuvent arriver à la conclusion qu'il faut se désengager de la région. Mais encore une fois, et vous le soulignez très bien, le facteur X, c'est effectivement les Israéliens. On sait qu'ils ne renoncent jamais, ils sont dans une politique jusqu'au boutiste. Et il faudra essayer de rester vigilant quant à ce qui pourrait être encore sorti du sac afin que les Israéliens puissent maintenir les Américains dans la région, parce que c'est l'objectif.
Maître Arnaud Develet, juriste international, analyste politique, Madame Issar Midani, analyste franco-syrien de questions internationales, tous deux depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Et très bonne journée.
Merci à vous de même. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran a annoncé, c'était jeudi, l'inauguration d'un nouveau terminal pétrolier pour exporter son brut à partir d'un port sur la mer d'Oman et non plus juste à partir du golfe Persique lors d'une cérémonie retransmise par la télévision iranienne. Démarrer l'exploitation de l'oléoduc de transfert de pétrole brut de Dob Ghuri, situé dans le sud-ouest de l'Iran, à Jask, situé dans le sud-est, d'une longueur de 1000 km, et l'exploitation du terminal d'exportation de la région de Makran dans le port de Jask, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani dans un discours retransmis à la télévision. Cet oléoduc doit permettra à la République islamique d'Iran d'exporter du pétrole à partir de Jask sur le golfe d'Oman, ce qui permet aux navires de citerne de gagner quelques jours de navigation par rapport au port pétrolier de Khalq dans le golfe Persique et d'éviter le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est un des grands jours historiques pour la nation iranienne, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani en expliquant que les exportations de pétrole iranienne serait coupée en cas de problème avant l'ouverture de ce nouveau terminal. L'Iran exprime son soutien décisif à Cuba face aux pressions américaines. Majid Tartalavanchi, ambassadeur permanent d'Iran auprès des Nations Unies, a fait ses remarques mercredi s'adressant à une réunion extraordinaire du mouvement auprès des non-alignés de Emenar. Majid Tartalavanchi, l'ambassadeur permanent de l'Iran auprès de l'ONU, a précisé la République islamique d'Iran annonce sa solidarité avec le peuple et le gouvernement cubain dans la lutte contre les actions des États-Unis. Il a souligné la nature hostile et provocatrice de la politique des États-Unis concernant Cuba, affirmant que cette approche équivalait à une violation flagrante des normes et principes fondamentaux du droit international. Une telle approche, a-t-il ajouté, a également contribué à saper les droits de l'homme et la démocratie. Tartel Avanchi a donc exhorté le MNA à travailler au développement de meilleures façons de faire face à la pression américaine et à sa violation du droit international et des résolutions de l'ONU. La Chine face à l'action en Syrie. Pékin renforce son interaction avec Damas non seulement sur le plan politico-diplomatique, mais tout semble désormais aller dans la direction d'une collaboration de plus en plus étroite dans les sphères économiques et sécuritaires. Renforçant un peu plus l'axe de la multipolarité dans les affaires du Moyen-Orient et confirmant par la même occasion que la Syrie peut se passer d'une interaction quelconque avec les États occidentaux. La visite du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi dans la capitale syrienne est venue conforter non seulement auprès des relations cordiales entre la Syrie, au moment d'ailleurs de l'inauguration du leader des Syriens, mais confirme de plus en plus la détermination du leadership chinois à jouer un rôle important dans la Syrie post-conflit aux côtés des autres principaux alliés de Damas en la qualité de la Russie et de l'Iran. Le tout prêt après la récente victoire du président Bachar al-Assad aux élections présidentielles syriennes. Durant cette visite, le haut responsable chinois a rencontré son homologue syrien Faisal Miqdad et a également été reçu par le président syrien. À l'issue de sa rencontre, les deux pays se sont fixés l'objectif de renforcer les liens et la coopération bilatérale, comme l'annonce l'agence de presse chinoise Xinhua. Wang Yi, qui au-delà d'être le ministre des Affaires étrangères est également conseiller d'État, a souligné que la Chine se tient résolument aux côtés du peuple syrien et adhère à la justice internationale en préservant la souveraineté et l'indépendance de la Syrie. Lors de sa rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad, le chef de la diplomatie chinoise a également rappelé que la Chine s'oppose à toute tentative de changement de régime en Syrie. Toujours selon Wang Yi, sous la direction de M. Assad, le peuple syrien a remporté de précieux succès dans la lutte contre le terrorisme et l'opposition aux ingérences extérieures, ajoutant que la réélection du président syrien reflétait la confiance et le soutien solide dont il est joui auprès de la population. Un commentaire fort important et qui, à l'instar du soutien des russo-iraniens à Damas, va fermement à l'encontre des déclarations d'une large partie de l'establishment occidental. Par ailleurs, la Chine soutient fortement la Syrie dans la gestion de ses problèmes intérieurs en vertu du principe dirigé et pris en charge par les Syriens. Le ministre chinois des Affaires étrangères a par ailleurs affirmé que la Chine avait présenté une proposition en 4 points pour résoudre la question syrienne. Premièrement, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être respectées. La Chine appelle à respecter le choix du peuple syrien à abandonner l'illusion d'un changement de deux régimes et à laisser le peuple syrien déterminer de manière indépendante l'avenir et le destin de son pays. Deuxièmement, le bien-être du peuple syrien doit être une priorité et le processus de reconstruction doit être accéléré. La Chine estime que le moyen fondamental de résoudre la crise humanitaire en Syrie réside dans la levée immédiate de toutes les sanctions unilatérale et du blocus économique contre la Syrie. Troisièmement, une position ferme sur la lutte efficace contre le terrorisme doit être maintenue. Quatrièmement, une solution politique inclusive et réconciliatrice à la question syrienne doit être encouragée. « Les sources yéménites ont publié des images montrant une attaque menée par les forces yéménites contre les mercenaires soudanais de la coalition d'agression saoudienne à la frontière avec l'Arabie saoudite. Suite aux récentes opérations réussies de l'armée yéménite à la frontière avec l'Arabie saoudite et la province d'Al-Baïza, les sources yéménites ont publié ce jeudi 22 juillet des images montrant une attaque menée par l'armée yéménite et les combattants d'Ansarallah contre les mercenaires soudanais de la coalition d'agression saoudienne près de la région de Jabal al-Lout à la frontière avec l'Arabie saoudite d'après Arabi Press. Les sources yéménites ont rapporté qu'un certain nombre de mercenaires soudanais affiliés à l'Arabie saoudite ont été tués et plusieurs autres capturés lors de l'opération. Au cours de l'opération, l'armée yéménite et les combattants d'Ansarallah ont pu prendre le contrôle des positions des mercenaires près de la zone de Jabal al-Doud en infligeant de lourdes pertes à la coalition d'agression saoudienne. La Turquie condamne la rencontre du président français Emmanuel Macron avec les représentants des Kurdes syriens. Le maintien des contacts avec le Kurdistan syrien par le président français a été fustigé par Ankara en rencontrant à Paris des représentants d'Emmanuel Macron a assuré poursuivre le combat contre Daesh en Syrie et son action humanitaire consacrée aux Kurdes syriens. Selon la Turquie, le Conseil démocratique syrien dont des membres ont été accueillis à l'Elysée est une branche armée du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, considéré comme terroriste par une grande partie de la communauté internationale, dont l'Union européenne, l'OTAN, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Turquie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les liens maintenus par la France au mépris de nos appels avec cette organisation séparatiste terroriste et ses branches portent atteinte aux tentatives d'assurer la sécurité nationale de la Turquie, l'union politique et l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu'à établir la stabilité dans la région, a martelé le porte-parole de la diplomatie turque dans un communiqué. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.